La théorie du papillon. En février de cette année-là, il se mit à pleuvoir et il plut sans interruption pendant 167 jours. D'aucuns, prenant pour argument la folie du monde, président, filou, chef de guerre, d'entreprise et autres aiguilleurs de destinée, multipliant partout leurs efforts pour envoyer à la dérive, à l'abandon ou à la mort le plus grand nombre possible de personnes, évoquèrent un nouveau déluge, parlèrent de punition divine. Cependant, ceux d'entre les humains, dont la soif de justice et de tolérance se trouvait amèrement satisfaite de cette éventuelle manifestation de l'existence de Dieu, en furent pour leurs frais, car rien, à part peut-être le réchauffement de la planète, qui possède sa propre morale inerte et inhumaine, ne vint confirmer cette hypothèse. En effet, le 168e jour, il cessa simplement de pleuvoir. Ce fut aussi ce premier jour de sécheresse que dans la petite ville de L, précisément au 16A rue des Fuyards, troisième étage gauche, un homme mourut. Dans ce fait non plus, nulle morale n'intervint. Simplement, l'instant d'avant, il vivait, et l'instant d'après, il était mort. L'homme lui-même ne se rendit pas compte de ce qui lui arrivait. Ce fut donc une mort douce et ignorante du caractère définitif de cette implacable absence d'événement. S'il est vrai que le battement d'aile d'un papillon en Afrique peut provoquer un ouragan en Europe, et même, cela tiendrait toutefois du miracle, dans ce pays minuscule et presque imperméable au monde qu'est le pays de Simon, cet homme inconnu ne semblait pas avoir beaucoup battu des ailes pendant toute sa banale existence. Cependant, sa disparition fut à l'origine de grandes révélations pour Simon, des révélations qui firent figure d'ouragan, bien que lui seul en fût réellement affecté, si l'on nommait sa mère, mais dans son cas on ne savait s'il s'agissait réellement des ailes d'un papillon ou de celles plus lourdes, de l'alcool, car cette aimable femme était gorgée de liqueur du matin au soir, ce qui rendait son élocution difficile à partir de midi et entourait les faits de son existence d'un battement d'ailes frénétique et tremblant qui possédait sa propre dynamique. Simon, c'est moi, et je suis le fils de ma mère. On ne choisit pas ce genre de détails. J'aime ma mère d'un amour contraint et contrarié, machinal et fatigant, possessif et acrimonieux. Je l'aime parce qu'elle est ma mère, simplement. Si j'avais eu le choix, je ne l'aurais pas aimée, puisque, hélas, ma mère a fait de moi un garçon très sensible, au tempérament contrarié et passablement contrariant, un homme enfant, lentement, patiemment persuadé par cette femme que tout amour maternel n'est rien d'autre qu'une forme d'oppression, possessive, mêlée en proportion égale de perverse tendresse, de bons sentiments imbéciles et de triste séduction. Toute qualité que possède également l'araignée pour sa proie tendrement engluée dans une dépendance complète et irrémédiable, et ainsi lentement digérée. Moi, je suis un de ces hommes enfants de sexe mâle qui considèrent les femmes comme des entités bizarres et incompréhensibles, cessant lorsqu'elles deviennent mères de sacrifier aux apparences de l'humanité pour se transformer brutalement en des bêtes étranges, millionnes, millicornes, des espèces fantastiques, possédées, remplies de sentiments battant les digues de la normalité comme des vagues de fond, à la fois changeantes, imprévisibles et résolument monomaniaques. J'avais souvent essayé de me libérer de mon amour captif pour cette femme implacable. Hélas, à moins de l'assommer, de la découper en morceaux, de l'enterrer au fond du jardin, mais je n'ai qu'un studio au sixième étage d'un immeuble sans accès, je semblais condamné à livrer éternellement mon combat contre l'hydre, ma guerre de tranchées, cette perpétuelle bataille désormais presque complètement vidée de son sens, car j'ai 35 ans bien sonné, qui continuait pourtant de me laisser jour après jour, épuisé, fatigué de l'inutilité de mes efforts, et tout entier rempli d'un intéressant mélange de culpabilité et de dépit, absolument déserté de la moindre vitalité. Cette histoire est mon histoire. Comme je l'ai dit, mon nom est Simon, et pour ma part, je ne ressemble à aucun animal exotique. Pour tout dire, je suis de ces gens qui n'ont aucune chance de jamais ressembler à rien d'autre qu'à eux-mêmes. À ma décharge, je peux arguer qu'étant de race masculine, je suis porté à me satisfaire de mon état viril de glorieuse solitude. De fait, Je ne suis pas sociable, charmant, enjoué et plein d'esprit. En revanche, j'aurais pu être dictateur, aventurier et ou père adulé parce qu'absent d'une nombreuse progéniture. Je suis du signe de la Vierge, au propre et au figuré. Je suis aussi employé nyctalope dans un hôtel de la ville de L, 23 chambres et juste assez d'étoiles pour devoir proposer les services d'un portier de nuit. Mes tâches n'ont rien de prestigieux. Jamais, dans l'hôtel où je travaille, aucun client ne souhaitera déguster à 3h du matin une cuisse de wapiti grillée sauce moloch. Jamais il ne me sera nécessaire de trouver pour un habitué excentrique la moindre call girl unijambiste apte à satisfaire de riches instincts pervers. Non, la plupart des clients de l'hôtel, dans mon minuscule pays qui compte presque plus de pasteurs que d'habitants, sont justement fils de pasteurs, représentants de matériel électronique ou sanitaire, ou à la rigueur, croque-mort participant à un congrès de thanatologie. Les exigences des clients de l'hôtel du bout du monde sont aussi ternes que leur personne, et mon travail consiste essentiellement à leur tendre la clé de leur chambre en affichant un sourire de commande, à verrouiller la porte-tambour de l'entrée après minuit, éventuellement fournir une couverture supplémentaire à ceux qui sont particulièrement maigres, frileux ou désespérés, et à noter l'heure matinale à laquelle je devrais jouer le réveil matin humain. Je suis également chargé de superviser l'équipe d'entretien de l'entreprise Clandesta SA qui travaille de 20h à minuit au nettoyage du hall d'entrée, de la salle à manger, des escaliers et de la cuisine de l'hôtel. Enfin, vers 4h du matin, je réceptionne les quotidiens et le pain frais que m'apportent les livreurs. À cette heure-là, lorsque l'équipe de nettoyage a quitté les lieux depuis longtemps, lorsque les journaux sont sagement pincés dans des ciseaux de bois datant du siècle passé, lorsque les tables du petit déjeuner, aux pieds légèrement bancals, sont dressées, lorsque tout est consigné dans le journal de bord et que je pourrais m'assoupir quelques minutes avant de procéder au réveil, au réglage de la chaudière, à l'enclenchement des machines à café et à l'accueil des réceptionnistes de jour, à l'heure du monde suspendu, du temps immobile, où tout être vivant normalement, constitué, flotte doucement entre sommeil et mort et laisse enfin ses fantômes prendre un peu de repos, à l'instant suspendu entre vie et trépas, ou plutôt entre minuscule perte d'espoir et curiosité, à cette heure-là, je m'exerce à la seule chose que je sais vraiment faire, mon passe-temps secret, ma compulsion intime, mon vice innocent, mon plaisir de l'esprit et des mains. Quel est-il ? Vous allez bientôt le savoir. Je devais avoir 10 ans quand par hasard je me suis rendu compte que j'étais doué pour cette seule activité. Je n'étais pas un enfant colérique au sens commun du terme. Jamais je n'ai souffert ni fait souffrir mes proches de bruyantes crises de nerfs en plein centre commercial. Jamais je ne me suis roulé au sol en poussant cris et grognements. Jamais je n'ai mordu ou griffé la moindre caissière de supermarché, ni même ma mère. Je n'ai jamais possédé la moindre propension à épater la galerie. Au contraire. Depuis tout enfant, j'ai espéré l'invisibilité. Je ne me sentais jamais suffisamment invisible, et les inévitables vagues d'émotions et de révoltes, les torrents bondissants de souhaits impérieux et les océans furieux de désespoir tragique qui battent éternellement les digues des forteresses enfantines, restèrent chez moi au stade de minuscules vaguelettes inaperçues. Ou plutôt, elles prirent la forme de ce qu'il fut très vite convenu d'appeler une remarquable maladresse. En effet, même si je semblais être un enfant raide et inexpressif, tout ce que je saisissais entre mes mains se cassait. Avec les morceaux de toute la vaisselle que j'ai brisée, on pourrait recouvrir le sol d'une léproserie indienne. On pourrait ouvrir un cimetière littéraire avec les bataillons de crayons, stylos, plumes à réservoir dont j'ai malencontreusement brisé les chines. Quant à mes brosses à dents, j'en avais toujours une douzaine de réserves, celle du jour m'échappant régulièrement pour aller obstruer les canalisations de la ville ou du moins de l'immeuble. La tuyauterie du bâtiment que nous habitions produisait régulièrement des fracas de pierres qui tombent, borborygmes et gémissements que j'attribuais avec angoisse à tous les objets que j'avais laissés échapper et que j'imaginais dévaler les canalisations en rebondissant, déchirant le métal rouillé et occasionnant de minuscules raz-de-marée dans les salles de bain des locataires sidérés. Ensuite, dans les escaliers, je cherchais toujours à me rendre invisible lorsque je croisais quelqu'un, tant je me sentais coupable. Il me fallut atteindre la puberté pour comprendre que peut-être ni mes brosses à dents ni ma maladresse légendaire n'étaient particulièrement en cause dans le mauvais état de l'immeuble qui fuyait de toutes parts. N'empêche, la rivière qui traverse la ville et collecte les eaux usées, qui s'appelle la Louve, a charrié dans ses eaux brunes plus de brosses à dents de Simon que de dents de Louveteau. J'ai longtemps pensé que ma maladresse était un destin en soi, comme d'autres ont une verrue sur le nez ou les pieds plats. Les objets fuyaient mes mains simplement. Aujourd'hui, un enfant aussi maladroit que je l'étais serait pris en charge par un bataillon de psychologues, psychomotriciennes et autres spécialistes de l'âme et des mouvements, répondant aux doux prénoms de Violaine, Adélaïde ou Brice, mais ne répondant en revanche jamais aux questions. Mais à l'époque de mes 10 ans, dans ma petite ville de province, les adultes s'appelaient plus prosaïquement Michel ou Monique, et nul ne s'émut jamais de ma maladresse. On se contenta de me déclarer irrémédiablement bon à rien. Je fais ici une petite digression pour dire combien j'envie les enfants qui vivent entourés de ce genre d'objets fragiles qui remplissent leurs mains d'importance et d'effroi, ces choses que les enfants ne peuvent manquer de casser, par désir, par plaisir, par jubilation d'entendre leur mère s'écrier « Cet enfant me rendra folle, attends seulement que papa rentre, tu viens de gagner ta fessée ». Car pour ma part, en ce qui concerne les objets fragiles, je vivais dans un insondable désert de fessées. J'oserais presque dire de moi que je fus un enfant maltraité de ne pas avoir été battu. Je n'ai jamais été puni, grondé et au encore moins taloché pour avoir brisé quoi que ce soit. Les fessées ne s'attrapent pas dans l'air du temps, et ma mère, tout en me possédant d'un amour possessif et inquisiteur, restait impitoyablement plus occupée à vider des bouteilles qu'à remplir mon existence de la chaude sécurité de taloches bien pensées. Chez nous, rien n'était jamais fragile, à part naturellement le cœur de ma mère. Hormis ses sentiments, rien ne valait la peine d'être traité avec douceur et habileté. Je n'ignorais pas, il aurait fallu que je sois sourd, que j'avais brisé ces deux objets précieux, cœur et sentiments, le jour même de ma naissance et avant de savoir ce que je faisais. Pour tout dire, à l'âge de 6 heures, j'avais déjà acquis la réputation d'être incomparablement maladroit, puisque j'avais brisé l'existence de ma mère, rien qu'en poussant ma tête entre ses jambes et en forçant de tous mes 3 kilos de sang le passage étroit entre le non-être et la vie. Ma mère est de ces gens qui croient que l'or n'est que du vulgaire cuivre en regard de leur précieuse, unique et splendide souffrance existentielle. Ma réputation ainsi solidement et précocement établie, je cassais donc impunément tout et n'importe quoi pendant les 10 premières années de ma vie. Je remis moi-même en question ces certitudes rassurantes par un beau jour de printemps de l'année de mes 10 ans. Ce jour-là, je marchais tête baissée sur le chemin de l'école, déterminé comme toujours à ne croiser aucun regard, à ne pas me faire remarquer, à ne rien saisir entre mes mains indécises et à parfaitement ressembler à un enfant absolument normal, sans rien de particulier, ni sympathique, ni colérique, ni vif, ni particulièrement endormi et même pas spécialement maladroit, déterminé surtout à ne pas avoir l'air d'un enfant sans père. Ainsi courbé, je remarquai au pied d'un arbre, juste à côté d'une crotte de chien, une petite chose brune qui bougeait et pépillait. C'était un oisillon blessé. Je tombai en arrêt et contemplai longuement la petite boule frémissante et frissonnante. Même si je ne l'avais jamais connue, je savais bien que mon père aurait fait ce que mon père aurait fait en pareille circonstance. Il aurait saisi l'animal tremblant, l'aurait réconforté, aurait même probablement mâché un petit ver de terre pour le nourrir et le guérir de ses blessures de l'âme. Chez les oiseaux, toutes les blessures sont de l'âme. Avant de réussir de façon quasi magique à lui redonner le goût de s'envoler et de regagner le ciel. Mon père, bien qu'inconnu de moi, ne pouvait agir qu'en héros dans mon imagination d'enfant sans père. Mais moi qui n'étais pas mon père, je ne sus absolument pas que faire. Fallait-il simplement saisir l'oisillon entre mes paumes comme on impose les mains? Devais-je l'installer douillettement dans ma poche, puis grimper précautionneusement dans l'arbre à la recherche de son nid et de ses parents, que d'ores et déjà j'estimais indignes? Devais-je installer un camp sous l'arbre, construire un abri protégeant la petite boule de plumes et d'air de tous les promeneurs et de leurs chiens, de tous les chats errants du monde? Devais-je simplement faire l'école buissonnière, au risque d'être dénoncé par ma maîtresse d'école, si toutefois elle se rendait compte de mon absence, ce qui paraissait peu probable, pour m'asseoir sous l'arbre et prier jusqu'à ce que l'oiseau s'envole, pépillant de bonheur, et me confiant qu'il était en fait une princesse ensorcelée, et que à partir de ce jour tous mes souhaits se réaliseraient, etc., etc. Finalement, après plusieurs minutes d'hésitation, mu par un obscur désir, je me penchai, tendis mes mains vers le minuscule volatile, et le plus doucement possible, je le pris entre mes paumes. Il était tiède, doux, palpitant, presque sans poids. C'était effrayant. Et naturellement, ma maladresse proverbiale se chargea de résoudre mon cas de conscience. Lentement, je sentis mes mains commencer à se contracter, mes doigts se durcir, mes paumes se serrer l'une contre l'autre. J'essayais de contrer le mouvement, j'essayais vraiment. Mais, alors que tout mon corps, des pieds aux oreilles, se tendait dans un effort désespéré pour ne pas bloquer mes doigts, je sentis entre mes paumes le cœur de l'oiseau accélérer, accélérer, puis brutalement se taire, d'un coup, léger souffle minuscule et presque inaperçu qui passe et puis s'éteint. Je laisse échoir le petit corps tout tiède. À l'intérieur de moi, en même temps que le souffle presque inexistant puis éteint de l'oiseau, quelque chose s'était également effondré. Et d'un coup, brutalement, confusément, je sus que mon père, ce héros mille fois rêvé, n'existait pas. Que sa prétendue magie n'était qu'une invention, quelque peu désespérée de ma part, et que moi, je n'étais peut-être pas si maladroit que cela. Derrière le paravent qui venait de s'effondrer au creux de mon ventre, je sentis quelque chose de triste et de terrible prendre vie. Car si la sensation vertigineuse qu'avait provoqué en moi le souffle quittant la petite boule de plume était sûrement de l'épouvante et de la détresse, il me semblait aussi y avoir décelé autre chose, une sorte de tressaillement obscur, comme un désir, comme un pouvoir. Tout seul sous mon arbre, ce jour-là, avec une chose morte à mes pieds, je cessais de croire en ma maladresse, je cessais de reconnaître mon père dans tous les hommes grands, beaux et forts que je croisais, je le reléguais brusquement dans le cagibi peu prestigieux de mes rêves avortés, et je commençais à avoir peur de ce que j'étais capable de faire. Bref, je quittais enfin l'enfance. Certaines personnes éprouvent leur patience en réunissant des puzzles de 10 000 pièces. Certains ne cessent de zapper à la télévision. Certains courent, suent, s'essoufflent pour apercevoir les limites de ce qu'ils peuvent endurer. Certains dessinent ou écrivent un journal intime. Les manières varient, mais le but reste inlassablement le même. Grandir, ne plus croire aux monstres, cesser de s'illusionner sur le caractère divin de ses parents et commencer à apprivoiser cette effrayante et implacable absence de contrôle. Moi, je commençais à jongler. À partir de ce jour où l'oiseau est mort, les objets acquirent peu à peu entre mes mains la propriété de s'envoler au lieu de tomber, se répandre, se briser et mourir. Petit à petit, à force d'efforts, tout ce qui me passait dans les mains devint aérien, au moins pendant quelques instants. Assiettes, couteaux, nourriture de toute nature, crayons, cahiers, plumes, encriers, brosses à dents, rouleaux de papier toilette et même les bouteilles de ma mère, tout se mit à voler, à planer un bref instant avant naturellement, la magie ayant sans doute disparu de l'univers en même temps que mon père, de retomber dans un bruit de verre brisé.
C'était Nicolas Couchepin, enregistré le 24 avril 2009 à Soleure.